Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le football, le rugby, les sports automobiles, la boxe, tous les sports ou presque ont vu un jour un réalisateur se pencher sur leur destin. Il y a eu des navets bien sûr, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont plutôt les chefs-d'œuvre. Lequel est le plus beau film, celui qui nous a fait rire ou même pleurer, celui qui nous a mis une claque tout simplement? Difficile de se prononcer me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast Qui c'est le plus fort et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand film de sport de l'histoire. Pour m'accompagner, trois personnes. David Honora, auteur de la carte de Movieland et du livre Retour à Movieland. Cette carte routière qui recense pas moins de 1800 films soigneusement sélectionnés par lui-même. Je vous le conseille vivement d'ailleurs. À ses côtés, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport, Laurent Vergne et Bertrand Milliard. Salut à tous.
Salut.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors pour commencer, messieurs, quel film avez-vous choisi en un mot ? David.
Alors moi, j'ai pris Les Blancs ne savent pas sauter de Ron Shelton.
Bertrand.
Coup de tête de Jean-Jacques Hano.
Et Laurent.
Moi, j'ai pris un documentaire de Léon Gas qui s'appelle When We Were Kings.
Alors, honneur à notre invité, David. Pourquoi avoir choisi ce film ? Et dis-nous en quelques mots de quoi il s'agit pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce film, ce chef-d'œuvre selon toi.
Oui, un chef-d'œuvre. Alors, Les Blancs ne savent pas sauter. Donc, c'est une comédie sur le basket, mais plutôt le basket de rue. Et donc, c'est un film des années 90 de Ron Shelton. Il est possible qu'on en parle plusieurs fois dans cette émission parce qu'il a fait plusieurs films de sport et de sports différents sur le baseball, le golf, et lui-même a pratiqué le baseball à assez haut niveau. Et Les Blancs ne savent pas sauter, du coup, c'est un film, je dirais, qui est dans un sous-genre du film de sport, qui est le film d'arnaque. Et en fait, c'est très inspiré de films comme L'Arnaqueur et La Couleur de l'Argent, qui était sur le billard. Et le principe, en fait, c'est que les deux personnages joués par Woody Harrelson et Wesley Snipes en fait, se servent de leur talent incroyable pour le basket, arnaquer des gens sur les terrains de quartier en faisant croire qu'ils vont pas avoir le niveau, et puis en jouant notamment sur les stéréotypes et sur le fait que Woody Harrelson, habillé un peu comme un geek dans le film, donne l'impression qu'il ne va pas en toucher une alors qu'il est exceptionnel sur les terrains. Donc il y a un truc assez intéressant, je trouve, à la fois dans la transposition du film d'arnaque avec l'esthétique des années 90 et le basket, aussi la manière de filmer le sport en lui-même. Je trouve que les séquences de basket sont hyper intéressantes dans leur conception, dans le montage, l'utilisation du ralenti, la position de la caméra, etc. Il y a des trucs intéressants à voir là-dedans. Et puis aussi narrativement, c'est toujours un truc en fait qui est plaisant dans les films de sport, la figure de l'underdog, en fait, les personnages où on se dit qu'a priori tout porte à croire qu'ils vont perdre, et en fait c'est souvent les plus impressionnants. Et moi, l'autre très très grand film de sport avec lequel j'ai hésité, c'est Rocky, et qui fonctionne encore plus sur cette mécanique de manière romantique et magnifiée, mais voilà. Et donc Les Blancs ne savent pas sauter, il faut savoir que c'est un des films préférés de Stanley Kubrick. On pense pas forcément à lui en voyant le film, mais c'est hyper bien foutu, ça repose beaucoup sur le charme des deux acteurs principaux qui cabotinent à mort dans le film, mais ils sont vraiment excellents.
Laurent, est-ce que tu connais ce film et est-ce que tu te retrouves dans ce que dit David ?
Alors, oui, je connais ce film et oui, je me retrouve. C'est un film que j'aime beaucoup. J'étais allé le voir au cinéma quand il est sorti et honnêtement, j'en attendais pas grand-chose. Voilà, j'avais vaguement lu la trame, mais pour tout dire, j'avais peur un petit peu du nanar, quoi. Et en fait, le film vous a, enfin, moi, m'a attrapé dès la première scène d'arnaque où Woody Harrelson arrive et où il est formidable dans ce rôle où il fait le crétin, quoi, et le demeuré, et où il va tous les arnaquer, si je me souviens bien, parce que j'ai pas revu le film depuis très très longtemps, mais il me semble que c'est ça. Et après, ce qui est, d'abord, c'est un film qui est très drôle quand même. Il y a des répliques assez fabuleuses, et notamment une que j'aime bien et que je ressors souvent quand Woody Harrelson essaye de dunker. Hein, donc, tout le titre du film vient de là. Et Wesley Snipes lui dit, parce que je crois qu'il finit par y arriver, si tu vas me confirmer. Voilà. Et Wesley Snipes lui sort, donc Woody Harrelson est tout fier de lui, et Woody Harrelson et Wesley Snipes lui dit, le soleil brille aussi sur le cul des chiens. J'aime beaucoup cette réplique. Et après, je trouve que les personnages, et c'était pour moi la vraie bonne surprise du film, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur la façon de filmer le basket, et je pense aussi que ce soit sur du basket de rue, en termes de réalisation, ça permet de se focaliser vraiment justement sur l'action et pas sur tout ce qu'il y a aux côtés, le banc, le public, tout ça. On est vraiment juste sur le jeu. Et la bonne surprise pour moi, c'était que les personnages ont beaucoup plus de profondeur que ce qu'on pouvait imaginer au début du film, et notamment celui de Woody Harrelson. Et donc, ouais, c'est un film que j'aime bien, qui est très plaisant, mais qui n'est pas que ça.
Vous m'avez convaincu, messieurs. Je crois que j'ai envie de regarder ce film que je
Moi aussi,
n'ai.
parce que je ne l'ai pas vu.
Tu vois? Les films de basket. Alors, Laurent, toi, tu as évoqué un docu. On sait très bien que récemment, il y a eu The Last Dance qui a fait beaucoup de bruit. Il y a d'autres films de basket comme ça qui ont marqué?
Ouais, bah dans les années 90, il y en a eu beaucoup, et il y a I Got Game qui est quand même, je pense, une référence, et moi, un film que j'aime bien.
Le Spike
Et
Lee.
de Spike Lee, ouais, et même un film qui est beaucoup plus mineur, mais d'un très grand réalisateur, qui est Blue Chips, avec Nick Nolte et puis une tripotée d'acteurs qu'on a, d'acteurs, de basketteurs qu'on a vu ensuite. Un très très haut niveau, dont Shaquille O'Neal évidemment, et Penny Hardaway aussi, je crois, et qui lui est plus sur le basket universitaire, et qu'un film que j'aime bien aussi, je crois, de William Friedkin, si je ne dis pas de bêtises.
Sur le basket, il y a aussi un grand documentaire qui est souvent cité parmi les meilleurs films sur le sport, c'est Hoop Dreams, et qui est un documentaire qui suit en fait deux jeunes aspirants à la NBA, enfin qui veulent jouer au basket à très haut niveau, et on suit leur parcours, et c'est hyper intéressant. Enfin, c'était un des premiers documentaires en fait. Qu'on a inspiré énormément d'autres derrière, mais qui montrait de manière très documentée et très détaillée tous les rouages qui mènent au sport professionnel.
Et puis un film avec Gene Hackman aussi, Le Grand Défi, que moi j'aime bien, qui est un film un petit peu plus vieux des années 80, mais qui était pas mal aussi.
Il y a profusion de films autour du basket à vous entendre. Autour du football, il y a longtemps eu un film qui a fait référence. C'était souvent, et c'est le film que tu as choisi, Bertrand, Coup de tête. Tu peux nous en dire un mot, sachant que c'est vrai que longtemps après, ce film faisait toujours référence. Il y avait des nouveaux films de foot et on disait, oh, c'est jamais mieux, que ça n'a jamais été aussi bien, ça n'égale pas Coup de tête, quoi.
Il fait toujours référence d'ailleurs, même si moi j'aime bien dans un style plus léger, joue là comme Beckham, c'est le film plus récent aussi, j'aime bien aimer ce film. Déjà, moi je voulais vous dire en introduction que je suis pas, alors, pourtant je suis invité dans cette émission, et merci d'ailleurs de m'avoir invité, mais je suis pas un grand fan des films de sport en général, parce que pour moi en fait, aucune fiction ne peut égaler la réalité de ce qu'est le sport. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun film de cinéma, quel qu'il soit, qui va égaler ce que j'ai pu ressentir lors de la finale de la Coupe Davis 91, ce qu'on a pu ressentir lors d'un Saint-Étienne-Kiev match retour en Ligue des Champions 76,
Au
enfin,
hasard.
les clubs champions, au hasard, ou la remontada plus récente du Barça face au PSG. C'est des choses qui, si elle avait été écrite, celle-là, on aurait dit, mais c'est n'importe quoi, ça peut pas arriver en vrai, c'est ridicule, etc. Donc, l'émotion qu'on ressent réellement dans le sport, live, ne peut pas être surpassée par quelque chose de cinéma. Donc, pour moi, pour que je m'intéresse à un film de sport, il faut que le sport soit un support mais qu'il y ait d'autres thèmes dessus. Et donc, moi, ce sont souvent des thèmes sociétaux qui m'intéressent. C'est basé sur le sportif, mais ce sont les thèmes de société qui sont les plus importants. La plupart des films que j'aime au niveau des films de sport, ce sont des films plutôt dramatiques, parce que moi, je ne suis pas vraiment un client du film à l'eau de rose. Et si on doit en prendre un, par exemple, dans le monde des films sportifs, ce serait Wimbledon, qui est le navet par excellence pour moi. Catastrophique parce que à la fois il ne dépeint absolument pas la réalité du monde du tennis et en plus cette espèce d'histoire d'amour ridicule entre Kirsten Dunst et le joueur anglais, enfin bon, pour ça c'est pas, je suis pas du tout client de ce genre de choses et pour moi ça n'a en fait aucun intérêt. Donc effectivement j'ai choisi en premier, j'en ai choisi plusieurs, mais j'ai choisi en premier Coup de tête, donc un film de 1979 de Jean-Jacques Hano avec déjà une distribution assez exceptionnelle. Bon, c'est Patrick Devers évidemment qui joue le rôle principal et qui est vraiment le personnage du film, mais il y a des seconds rôles exceptionnels aussi. Jean Bouise, le président du club, un acteur toujours dans des seconds rôles méconnus, mais un sacré acteur. Michel Aumont, Paul Leperson, Robert Dalban, Bernard-Pierre Donadieu, Maurice Barrier, Hubert Deschamps, Gérard Hernandez, Mario David, Jean-Pierre Darroussin. Vous voyez que ça fait quand même un sacré panel d'acteurs, des plus ou moins des plus grands rôles ou des petits rôles. Et donc, bah, l'histoire, c'est ce qui est assez marrant, c'est que c'est l'histoire d'un club de football de petit niveau, niveau régional, qui s'appelle Trinquant. Et donc, c'est un mélange. Alors, ce n'est pas un mélange. C'était basé sur Guingamp, qui a fait une belle épopée en Coupe de France en 73. Donc, Trinquant, c'est nulle part, en fait. Hein. Ils ont choisi un nom. La région ne la connaît pas. C'est plutôt pour figurer Guingamp. Mais ça a été tourné plutôt dans les installations d'Auxerre, donc au stade de la Baie des Champs, avec les maillots d'Auxerre, Chaillotine, les maillots de l'époque. Auxerre était en passe de monter en D1, l'équipe de Guérou. Et donc, bah, c'est l'histoire de François Perrin, un autre François Perrin du cinéma, en l'occurrence Patrick Devers, qui est un joueur de l'équipe réserve, qui n'est pas très bon, et qui un jour à l'entraînement blesse la star de l'équipe, qui s'appelle Berthier, et donc il est viré pour ça, il est viré et de l'équipe de foot et de l'usine, dans laquelle l'usine qui appartient au président, hein, les joueurs sont comme c'est des amateurs, ils travaillent à l'usine et puis ils sont chez le club de foot. Et puis, à un moment donné, il arrive un drame, une femme se fait violer. Et en l'occurrence c'est par la star de l'équipe, mais pour pas que ça se sache, parce qu'il y a des matchs importants, des échéances à venir, eh bien, c'est beaucoup de personnes dans le film, on décide que ce serait bien que finalement le coupable ce soit lui, François Perrin, parce que s'il va en prison ce sera pas très grave. Donc il y a des faux témoignages, etc., il est accusé, il va en prison, voilà, ça c'est le début de l'histoire. Ensuite, bon, voilà, petit à petit, il va y avoir un accident de car pour le match de Coupe de France, donc beaucoup de joueurs blessés. Il faut retrouver un joueur, donc on va le chercher en prison pour qu'il fasse le 11e homme. Et là, il va s'évader, s'en suit plein d'événements. Il va aller retourner chez la victime, en l'occurrence d'ailleurs aussi, qui va petit à petit convaincre de revenir sur son témoignage, parce qu'elle a fait elle aussi un faux témoignage finalement en l'accusant lui. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'à un moment donné, il devient le héros, parce qu'il participe à ce match de Coupe de France, il marque les deux buts de la victoire qui permettent à Trinquant d'aller en quart de finale. Et d'un coup, tout s'inverse. Du paria, du gars dont on se foutait complètement parce que ce n'était pas un très bon joueur et qu'on pouvait en faire une victime, quitte à l'envoyer en prison, ce n'était pas très grave, à la place d'un autre, eh bien, il devient la star, forcément, l'homme qui est adulé, à qui on va offrir plein de choses, parce que la foule l'aime bien, parce qu'il fait gagner de l'argent au président, parce qu'il fait gagner des choses à tous les gens du club et tous ceux qui sont autour. Donc, évidemment, c'est l'ironie du sort. C'est un film sur la manipulation, sur le pouvoir de l'argent, sur le statut de star et la protection qui peut aller avec, sur le cynisme, évidemment, et sur l'importance aussi de la foule, puisque à partir du moment où il a marqué deux buts, bah, il est aimé par la foule. Et s'il est aimé par la foule, il devient intouchable, comme l'était avant l'autre joueur qui est Berthier. Et il y a une scène d'anthologie dans ce film particulièrement. C'est la scène dite du dîner, du banquet, où en fait, à l'époque, à ce moment-là, il veut se venger, mais il ne l'a pas encore dit. Il invite tous ces gens-là, le président, le patron du bar, les patrons des sponsors, etc., à un banquet avec leurs épouses, également les inspecteurs de police qui l'ont giflé, baffé au moment des interrogatoires. Il fait comme si tout allait bien jusqu'au petit discours du président qui lui donne la parole. Et là, par un monologue fantastique de Patrick Devers où il prend chacun à partie les uns après les autres, où il les menace, etc., et où tout se retourne en fait en sa faveur, parce qu'à ce moment-là, il est devenu intouchable, puisqu'il a marqué ce fameux doublé dans le match. Et donc, bah voilà, ça montre beaucoup de choses en lien avec le sport, et finalement, on se dit que c'est une vision particulière du monde du football, mais des histoires, il y en a eu. Quand on pense à l'histoire Veya Oem, par exemple, ça pourrait très bien être une histoire de film aussi. Ça aurait pu être un film de Jean-Jacques Hano également. Et pourtant, c'est arrivé en vrai. Donc, c'est très intéressant sur le plan humain, sur le plan du cynisme, de la manipulation et encore une fois de l'importance du statut de la starisation et de ce que les foules peuvent faire parce que on est personne au départ, on peut être accusé de viol à la place d'un autre et le lendemain, on devient intouchable parce qu'on a marqué deux buts dans un match de foot.
David ou Laurent ?
Moi, j'adore ce film. On a souvent parlé avec Bertrand de coups de tête. La scène du dîner est effectivement formidable et s'il s'appelle François Perrin, c'est parce que le scénariste et les dialogues sont de Francis Weber. Et c'est peut-être les dialogues les plus vachards de la carrière de dialoguiste de Weber. Ils sont vraiment formidables. Et notamment dans cette tirade, alors je ne l'ai plus en tête exactement, mais vous dites que vous êtes un sacré tas d'ordures. Ouais. Il y aurait de quoi remplir tout un tas de poubelles. Je ne sais plus. Enfin, elle est vraiment formidable. Et Devers est magnifique dans cette scène-là, notamment. Et je crois en plus que c'est après le tournage qu'Auxerre a fait son parcours en Coupe de France, et où Auxerre est allé jusqu'en finale de la Coupe contre Nantes. Il me semble que
ça sort en 79, c'est l'année où Auxerre fait sa finale contre Nantes.
C'est ça, et je pense qu'au moment du tournage, Auxerre n'a pas encore fait son parcours.
Non, et c'est Serge Maisonnès qui marque le but en finale, et Serge Maisonnès, il joue dans le film, parce que c'est les joueurs d'Auxerre qui jouent dans le film, et notamment Lucien Denis, qui est devenu un de nos confrères maintenant, journaliste, notamment pour RMC, qui jouait la doublure de Patrick Devers. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, tiens, il faudrait un gars frisé, un peu la même corpulence avec la petite moustache qu'il avait la moustache à l'époque. Et comme Patrick Devers était totalement nul au foot, ils ont pris Lucien Denis pour faire les scènes de foot concernant Patrick Devers. Et Lucien Denis, que j'ai réécouté en préparant cette émission, un peu une interview de lui concernant le film, il dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi nul au football que Patrick Devers, que même un enfant de 5 ans jouerait mieux, qu'il était incapable de faire quoi que ce soit.
Non, on s'en fout en fait.
Ouais. On s'en fout complètement, mais il disait à Jean-Jacques Hano, mais j'en ai marre, on peut plus de ton film sur le foot, on peut pas faire un autre thème. Il était vraiment nul. Donc Lucien Denis a fait toutes ces scènes de football qui ont eu lieu dans le film, donc il était loin de marquer un doublé. Mais c'est assez marrant de se dire que finalement ils ont choisi Patrick Devers pour jouer une star du foot alors qu'il était totalement zéro.
Mais il y a un espèce d'écho quand même entre la fiction et la réalité avec le parcours de la GIA derrière qui est assez marrant. Et Jean-Jacques Hano disait à propos de Coup de tête, c'est un grand petit film. Et moi, je pense que c'est juste un grand film.
Oui, et Lucien Denis, d'ailleurs, qui a donc fait la doublure, avait aussi, c'est l'ironie du sort, et c'était à la même époque, marqué le but qui permet à Auxerre de monter en D1 contre Cannes la même année, la même saison.
David, c'est un film qui t'a marqué aussi ?
Oui, alors moi je suis aussi vraiment très fan à la fois du film et de Patrick Devers. Je trouve que c'est un film justement qui... Enfin, c'est pas tout à fait anodin justement le fait que lui soit nul au foot et qu'en fait, pour pas mal de parties prenantes, le football en soi n'est pas vraiment ce qui les intéresse. C'est que c'est vraiment beaucoup un film sur les à côté, sur la petite bourgeoisie de province, sur la France de cette époque, sur les rapports sociaux entre les gens. Et en fait, pour moi, ça témoigne d'un truc de manière plus générale sur les films de sport, c'est que je pense que le football est un des sports les plus compliqués à mettre en scène au cinéma, notamment parce que c'est un sport qui supporte très mal le découpage. C'est un sport qui repose justement sur la durée et sur l'incursion spontanée d'un moment de grâce qui va amener à un but, à quelque chose, et qui contrairement à des sports américains beaucoup plus justement découpés, structurés, rend très mal au cinéma parce qu'on va tout de suite avoir l'impression qu'une action, à partir du moment où elle est mise en scène et circonscrite par le montage, on a l'impression qu'elle est fausse et qu'elle n'existe pas, quoi, parce que justement le foot c'est beaucoup l'attente. Et du coup, je trouve que les meilleurs films de foot, entre guillemets, ce sont les films qui vont s'intéresser à autre chose, à ce qui se passe à côté.
Et il y a très peu de foot, en fait. Hein,
Très peu de foot.
C'est ça.
Mais de la même manière que dans Rocky, par exemple, il y a très peu de boxe.
Il y a des scènes de vestiaire, par exemple. Ça, c'est comme du foot. Ouais. C'est quand même, on est dedans, quoi, dans les scènes de vestiaire aussi.
Mais dans Rocky, il y a quand même... Enfin, il y a très peu de boxe, mais tout pointe vers ça. C'est-à-dire que tout l'intérêt, enfin, toute la force cathartique de Rocky, c'est justement la séquence de fin du premier, qui est aussi la séquence d'ouverture du numéro 2.
Je parle que du premier. Après, c'est différent. Ouais. Mais pour moi, Rocky, j'en parlerai après quand on parle de When We Were Kings, mais pour moi, c'est pas un film sur la boxe. Ce n'est pas l'intérêt principal, en tout cas, du film.
Et on en reparlera un petit peu plus après, mais du coup, juste pour finir sur le foot et ses à côté, il y a un autre sujet de sport moi qui m'intéresse beaucoup, c'est les supporters. Et ça me fait penser à un autre film. Alors, je crois, Bertrand, que tu voudras parler d'Amor l'arbitre, encore un autre film qui est hyper intéressant là-dessus. Mais moi, il y a un de mes films de sport préférés qui est indirectement un film de foot parce que c'est le remake américain d'une adaptation du roman de Nick Hornby, Carton jaune, donc qui a déjà été adapté en Angleterre sur le foot. En suivant donc un supporter qui est complètement fan d'Arsenal et ça cause des gros problèmes dans sa vie sentimentale et ses rapports avec ses proches, quoi. Il peut pas aller au mariage d'une amie parce que il y a un match à l'extérieur contre Nottingham Forest ou je sais pas quoi, enfin qu'il y a aucun enjeu et il faut absolument qu'il aille voir le 0-0 là-bas plutôt que d'aller au mariage de sa meilleure amie. Et en fait, les frères Farrelly ont fait un remake, une nouvelle adaptation de ce roman que je trouve extraordinaire sur la question du supporterisme. Et ce remake s'appelle Terrain d'entente et c'est une comédie romantique avec Jimmy Fallon et Drew Barrymore qui transpose l'action d'un supporter donc d'Arsenal qui là est un supporter des Red Sox d'une équipe de baseball à Boston. Et enfin, pour moi, c'est une des plus grandes comédies romantiques américaines et c'est surtout un film hyper pertinent, je trouve, sur la manière de mettre en scène et de raconter ce que c'est d'être fan d'une équipe. Et en fait, c'est ce que raconte aussi très bien Nick Hornby dans son roman, c'est que bien souvent, en fait, être supporter, c'est plus un chemin de croix. C'est-à-dire que chaque week-end, on a plus de chances de souffrir que de prendre du plaisir. Et ce truc un peu fou... Et l'impact que ça a sur les gens, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et un très bon sujet de cinéma qui permet en fait de parler de sport sans avoir tant que ça à le montrer.
C'est vrai, et d'ailleurs en parlant du supporterisme, c'est pas un film de sport mais une scène d'anthologie que beaucoup connaissent et que si vous la connaissez pas, il faut la regarder. C'est la scène du match écouté au transistor par Jean-Pierre Mariel dans Comme la Lune, Joël Seria, qui est absolument exceptionnel. D'abord, le jeu de Mariel, il écoute un match à la radio dans son lit avec sa femme ou son ex-femme, parce que c'est sa femme, il a une maîtresse, donc il n'est plus vraiment avec, il vient dormir de temps en temps avec, et là, c'est un soir où il vient dormir avec elle, mais il a un match à la radio qu'il écoute. Cette scène est absolument d'anthologie, extraordinaire de machisme, mélange de tous les mélanges de Marielle, qui après se couche directement parce que le résultat ne lui plaît pas, qui tourne le dos à sa femme, elle lui dit tu ne veux pas parler un peu, il dit non, moi je suis liquidé, je suis crevé. Il y a bien sûr l'arbitre qui en prend pour ça. Enfin, le joueur adulé dans un premier temps et ensuite insulté, avec sous fond un peu de racisme aussi, parce qu'il dit ouais, là-bas, il bouffait, dans son pays, il bouffait des racines. Ici, c'est champagne et compagnie, comment veux-tu jouer au football. Enfin, il y a tout en 2 minutes 30, hein. C'est assez extraordinaire. C'est le seul passage de sport dans ce film, mais ça vaut le coup pour montrer ce que c'est aussi que le supporterisme parfois.
Je voulais évoquer un autre film aussi, Bertrand.
Alors, on va rester dans ce domaine-là, mais je voulais parler de Rollerball, mais restons effectivement dans le supporterisme avec Amor l'arbitre, un film d'un réalisateur que j'aime bien. J'aime pas tous ses films, il en a fait énormément. Tous ne sont pas bons, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment. Moi, personnellement, j'adore, notamment, je ne sais pas, La Grande Lessive ou Un linceul n'a pas de poche. Enfin, il y a beaucoup de très bons films de Jean-Pierre Mocky. C'en est un qui a été tourné à Rouen, stade Robert Diochon, à l'époque où Rouen était en première division. L'histoire, elle est assez basique. des supporters d'une équipe jaune et noire qui vont dans un stade voir leur équipe, un arbitre, alors le supporter principal c'est Michel Serrault, un arbitre qui est Eddie Mitchell, sa petite amie qui est journaliste et qui va faire un sujet sur les supporters dans lequel elle est dedans, parmi les supporters pendant le match. C'est les rouges contre les jaunes et il se trouve que l'arbitre Eddie Mitchell siffle un pénalty pour les rouges qui leur fait gagner le match et ça fait péter un plomb aux supporters des jaunes qui vont vouloir lui faire la peau et ça monte crescendo, c'est une violence qui monte crescendo qui est très intéressante parce qu'il s'agit d'une violence de foule, c'est-à-dire que d'abord des individus qu'on voit un peu éparpillés, des individus déjà haineux, mauvais, on va dire comme beaucoup des insultes, etc. Et puis petit à petit, cette espèce de haine se transforme en mouvement de foule, donc en violence absolue. Il faut faire la peau à l'arbitre parce qu'on a perdu ce match à cause d'un pénalty sifflé. Et un peu comme le prix du danger, ça monte petit à petit en intensité et en violence, avec beaucoup de poursuites, c'est pour ça que je pense au prix du danger. Il arrive à s'extraire du stade difficilement, ensuite il va à une émission de télé, mais du coup les supporters le voient à la télé, ils disent on va aller l'attendre à la sortie. Il y a beaucoup de poursuites comme ça, et ça devient finalement... totalement flippant, ça fait extrêmement peur parce qu'on voit qu'il n'y a plus la moindre limite et que la seule limite pour eux, c'est de se débarrasser de l'arbitre et ça se termine d'ailleurs en drame absolu. Donc c'est un film, je pense, sur la foule, sur le mouvement de foule et surtout sur la violence collective. Mmh. C'est-à-dire qu'une violence qui peut être au début verbale, individuelle et verbale, ben, comme le dit Imoki d'ailleurs à un moment dans le film, il dit quand il y a un élément violent ou un con violent dans le film, ben, il a tendance à fédérer tout le monde. Et c'est un peu ce qui se passe. Il y a quelques cons ultra-violents dans ce groupe. Et ils arrivent à fédérer tout ce groupe pour aller dans une violence sans fin. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors aujourd'hui, avec un peu d'humour, on pourrait dire que ça ne s'appellerait plus à mort l'arbitre, mais à mort l'avare. Donc, finalement, on s'en prendrait plus à une technologie ou une machine qu'à l'arbitre lui-même. Mais très intéressant sur ce plan-là, parce que l'arbitre, lui, on voit bien, est quelqu'un complètement détaché, qui a une vie normale, qui fait normalement son métier et qui se retrouve au cœur d'une violence inouïe. Et quand on met à la fin le parallèle, on se dit mais tout ça pour un pénalty sifflé, pour une défaite d'une équipe, c'est incroyable. Et pourtant, c'est pas si loin de la réalité. C'est quand même arrivé souvent dans le football amateur, très souvent, des arbitres tabassés ou pris à partie comme ça par des supporters ou des gens de l'équipe qui a perdu. Mais dans le monde professionnel, ce qu'on a connu avec les hooligans, etc., notamment dans les pays de l'Est aussi, les fights entre supporters de clubs, bah, évidemment que ça a une résonance. Hein, ça existe aussi en vrai. Donc le thème, il ne l'a pas choisi au hasard, Jean-Pierre Mocky.
Si on reste sur la bataille, la bagarre, Laurent, toi, tu avais choisi un film, When We Were Kings, sur un mythique combat de deux légendes de la boxe.
Oui, alors c'est une bagarre légale, j'ai envie de dire. Là, ouais. C'est même le but du jeu. Oui, donc moi, j'ai choisi When We Were Kings. Alors, c'est marrant parce que l'introduction qu'a fait Bertrand avant de parler de coup de tête, j'aurais pu faire exactement la même. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai choisi When We Were Kings. Et non pas un film de fiction, même s'il y en a beaucoup que j'aime énormément autour du sport. Mais c'est exactement pour ça que j'ai choisi When We Were Kings, parce que je pense comme Bertrand qu'aucun film de fiction ne peut égaler, ni même sans doute approcher, l'intensité, la dramaturgie et l'émotion que le sport, le vrai sport, peut générer. Pour moi, c'est inégalable, ça. Et même un film comme Ali, par exemple, qui est basé sur le même sujet, de Michael Mann, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, un très grand réalisateur, et le film est très bon. Et... Il n'y a pas grand-chose à jeter dans ce film, à commencer par l'interprétation de Will Smith dans le rôle d'Ali, qui était quand même à la fois un rôle magnifique, mais pas un cadeau, parce qu'interpréter Ali, je pense que c'était très difficile. Et je pense que ce qu'on voit dans When We Were Kings, c'est à la fois d'abord que Mohamed Ali est le seul à pouvoir vraiment incarner Mohamed Ali, et que la dramaturgie, le contexte, la violence... la stratégie du combat et l'émotion de ce combat entre Mohamed Ali et George Foreman, il n'y a rien d'autre qu'un documentaire qui pouvait le faire ressurgir. Donc When We Were Kings, pour resituer, c'est un documentaire qui a été fait par Leon Gast dans les années 70 autour du fameux Rumble in the Jungle, le combat entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Et c'est pas neutre, parce que le fait que ce combat ait eu lieu au Zaïre à l'époque et pas au Madison Square Garden à New York ou ailleurs aux États-Unis, c'est pas neutre dans l'intérêt du film et dans le contexte du combat. Et donc on y voit dans ce film qui dure à peu près 1 heure et demie, bah, évidemment le combat lui-même et comment Mohamed Ali va réussir à battre George Foreman qui paraissait invincible, hein, puisqu'il faut savoir que Ali à l'époque a 33 ans, tout le monde pense qu'il est un petit peu sur la pente descendante, sur le déclin, alors que Foreman lui est le nouveau maître et celui qui a pulvérisé Joe Frazier en le mettant 6 ou 7 fois au tapis en 2 rounds, une boucherie. Donc il est le nouveau champion du monde, il a une puissance destructrice, il est beaucoup plus jeune qu'Ali et Frazier. Et tout le monde s'attend à ce que Mohamed Ali connaisse exactement le même sort que Frazier quelques mois plus tôt. Et Ali, avec une stratégie, c'est vraiment la victoire de la ruse, quoi. Il va faire ce qu'on a appelé le rope-a-dope, c'est-à-dire qu'il va se caler dans les cordes, il va accepter de défendre, il va accepter le combat, il va laisser venir George Foreman à lui, et Foreman va s'épuiser, round après round, dans une débauche d'énergie, à vouloir à tout prix mettre Ali à terre. Et petit à petit, il va complètement se consumer. Et vraiment, le doc le montre de façon formidable, et notamment un plan où on voit dans la 8e reprise, peu de temps avant que Mohamed Ali passe à la mise à mort, entre guillemets, et ne mette KO George Foreman, où on voit Ali décocher un crochet, et il y a la sueur qui gicle du visage de Foreman. C'est vraiment une image très impressionnante, et quelques secondes plus tard, il va le mettre KO. Donc il y a le combat, et puis il y a tous les à côté, c'est-à-dire on voit l'arrivée de Mohamed Ali, on voit la préparation du combat, Mobutu, et comment Ali est accueilli vraiment comme par les Aïrois, il est un des leurs. Alors que Foreman, lui, c'est l'ennemi, c'est tout juste s'il est, comme avait dit Foreman, il a dit j'étais plus noir que lui, mais il a réussi à me faire passer pour un blanc. Et voilà, donc tout ça est formidablement retranscrit. Et puis, le documentaire en lui-même a une histoire incroyable parce que pour des questions de moyens et aussi de droits divers et variés, Leon Gass, le réalisateur, n'a pas pu boucler son film avant le milieu des années 90. Donc pendant plus de 20 ans, personne n'a vu ce documentaire. Et il est sorti en salle qu'en 1996, je crois. Et en 1997, il a eu l'Oscar du meilleur documentaire, avec une scène très émouvante, puisque et Mohamed Ali, qui était déjà malade, et George Foreman étaient présents dans la salle et sont montés à la demande de Leon Gast sur la scène après que l'Oscar ait été attribué à ce film.
Les films de boxe, c'est souvent très, très intense, c'est souvent peut-être ceux qui font ressortir le plus d'émotions. Est-ce que David, dans ta Map of Movieland, la carte que tu as créée sur les films qui recensent plus de 1800 films, il y a d'autres films de boxe ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'y réfléchissais. En fait, dans la carte qui est structurée par genre et par thématique, donc on va avoir le désert du western, la vallée de l'amour, les Teenage Islands, ce genre de choses. Il y a une région qui correspond donc au film de sport, qui est un peu une zone à part, la côte sportive. Et à l'intérieur, il y a une route qui est vraiment consacrée au film de boxe, qui, pour moi, avec le baseball, sont les deux sports rois au cinéma. C'est les deux sports qui ont donné lieu aux films les plus intéressants. Et depuis très longtemps, en particulier pour la boxe. Et du coup, dans mon premier livre, du coup, Movieland, dans lequel il y avait 50 itinéraires, à chaque fois, chaque chapitre consiste à aller d'un film A à un film B, donc suivre la route et traiter la thématique le long de cette route, j'avais consacré justement un chapitre au film de boxe.
Alors, lesquels ?
Alors, on a déjà un petit peu parlé de la saga Rocky. Qui a un rôle très important dans le film de sport moderne parce que ça a mis en place un certain nombre de codes esthétiques qui ont été repris vraiment partout, notamment ce qu'on appelle le training montage, donc le montage en fait d'entraînement de Rocky avec la musique et le fait de ramasser en peu de temps le passage de narrativement du moment où tout est perdu à en fait il va se mettre en forme pour être capable de remporter le combat ou au moins de montrer une certaine opposition. Mm-hmm. Ce segment narratif, c'est devenu un incontournable du film de sport, et c'est inventé à l'écriture par Stallone et par le réalisateur du premier Rocky. Esthétiquement, il y a un autre truc qui apparaît dans le premier Rocky qui est pas du tout anodin. C'est le Steadicam. Qui est mis au point par un opérateur de Philadelphie et qui va être un des premiers films qui va utiliser le Steadicam. Donc le Steadicam, c'est un appareillage qui permet de stabiliser la caméra et de se déplacer avec un petit peu partout, et ça a une importance même en fait dans la mise en scène pour le coup du vrai sport plus tard et encore aujourd'hui sur tous les bords de terrain il y a des Steadicam. Et en fait, l'appareillage qui va aussi être utilisé dans Shining l'année suivante, il est utilisé là notamment pour la séquence mythique de la montée des marches du musée d'art de Philadelphie. Et cette séquence qui a l'air de rien, on voit Stallone qui court et qui avale les marches les unes après les autres, faut quand même que l'opérateur puisse monter et avoir un mouvement de caméra fluide qui suit le personnage. Et ça, à l'époque, ça n'a l'air de rien aujourd'hui, mais c'est une révolution technique. Donc, toute la saga Rocky qui, en fait, avec le temps, et notamment avec des films comme Rocky 3, Rocky 4, on peut avoir une vision du personnage de Rocky qui est une sorte de personnage en plus qui se confond un peu avec le personnage de Rambo, mais on peut s'imaginer que c'est un peu une sorte de personnage réganien, bigger than life, etc. Mais en fait, c'est ce qui est devenu un petit peu Stallone et ce qui est devenu son personnage avec le temps, mais c'est pas du tout ce qu'il est au début. Et comme disait Laurent tout à l'heure, le premier Rocky, c'est un film presque austère qui est vraiment un drame intime.
Pas presque même, hein. Je trouve que c'est un film c'est très très sombre, même la gamme chromatique, tout est terne, exactement. Tout est gris, tout est vraiment... C'est déprimant, quoi.
C'est un film, moi, que je trouve magnifique, mais effectivement qui est un pur drame, quoi. Et en même temps qui aboutit à ce combat de fin qui en plus c'est pas vraiment un spoiler de le dire, mais qui n'est pas une victoire. On finit sur un...
Sur une autre forme de victoire, en tout cas.
Ouais, voilà. En tout cas, sportivement, il
une victoire sur lui-même, on va dire.
C'est ça. Et après, il y a ce gimmick à partir de Rocky 2 qui est intéressant, c'est de commencer exactement là où le premier s'était terminé et qui va créer quelque chose d'hyper captivant et qui intègre tous les enjeux sportifs et qui, je vous rejoins un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est très difficile de créer au cinéma quelque chose qui arrive au même niveau d'intensité de ce qu'on peut ressentir quand on suit le sport, et encore plus quand on a un attachement émotionnel à une équipe ou à un sportif. Mais ce que je trouve extraordinaire avec Rocky, c'est le fait d'avoir réussi à créer un sportif de fiction qui, pour lequel on va avoir un attachement quasiment similaire à un sportif de la vie réelle, quoi. Il y a un enjeu dans le palmarès de Rocky, ouais. qui le situe dans le réel.
Et ça, c'est, je me permets, David, ce qui est marrant, c'est que le fait que avec cette saga, c'est un peu comme si on suivait la carrière en fait de ce boxeur. Ouais. C'est ça qui est assez dingue. Et tout à l'heure, Bertrand disait que on pouvait pas, si on mettait certains matchs qui ont vraiment existé, avec des scénarios invraisemblables, qu'on les transposait au cinéma, on dirait c'est n'importe quoi. Et ça me fait penser que Stallone, qui est un dingue de boxe, hein, avait assisté, je crois que c'était en 92 ou 93, il y a eu un championnat du monde des lourds entre, je crois que c'était Riddick Bowe et Evander Holyfield, avec un scénario complètement fou, les boxeurs vont à terre à tour de rôle, et puis à un moment donné, un truc dingue, il y a un type qui tombe sur le ring en parachute. Voilà, c'est au César Palace, il me semble, à Las Vegas. Et le gars arrive, il tombe au milieu du ring, le combat est interrompu pendant 20 minutes. Et Stallone est interrogé à la télé américaine, je crois que c'était sur HBO, et il dit: mais si j'avais mis le quart de la moitié de ce qui s'est passé ce soir dans un des Rocky, on m'aurait pris pour un gros mytho. Donc parfois la fiction va pas plus loin que la réalité. Et c'est vrai que Il y a eu un peu de surenchère au fur et à mesure des Rocky en termes de scénario, mais finalement, ce n'était pas toujours si invraisemblable. Et l'autre truc, c'est que moi, quand je me sens, quand j'avais vu les Rocky, à un moment donné, je me disais Rocky 4, mon Rocky 5, et le mec, là, il a 45 ans, ça devient un peu n'importe quoi. Et puis, peu de temps après, il y a George Foreman qui est revenu et qui est devenu redevenu champion du monde des lourds à, je sais pas, 44 ou 45 ans. Donc, finalement, là aussi, il avait presque précédé la réalité.
C'était avant de faire le téléachat sur Eurosport pour George Foreman.
Avec le barbecue.
Voilà. Mais les films de boxe, il y en a quand même deux, je pense qu'il ne faut pas oublier. Bon, sinon, on va se faire engueuler par les fans de cinéma. Raging Bull de Scorsese, évidemment, et Million Dollar Baby de Clint Eastwood, qui est peut-être pour la jeune génération, enfin la jeune génération, les films les plus récents de boxe, celui qui a le plus marqué, je pense. Avec là aussi du pathos, avec quand même toute une histoire, encore tout un contexte social autour. Mais la boxe, elle est quand même très très présente dans ce film. Et il était assez marquant aussi. Celui-là, je ne l'ai pas pris parce que d'abord, ce n'est pas un de mes films préférés et que je ne suis pas un grand fan de boxe, ni des films de boxe en règle générale. Mais c'est quand même un film qui a marqué beaucoup de gens, qui a été beaucoup vu et qui était très intéressant.
Tu parles de Raging Bull ou
Non, tu parles de No Million
de
Dollar Baby, No Raging Bull. Pour moi, c'est au-dessus. C'est Scorsese. Je trouve que Scorsese, après, c'est très personnel. Pas meilleur réalisateur que Clint Eastwood. Moi, je préfère les films de Clint Eastwood des débuts, des années 70, en fait, en règle générale. Mais ça reste un bon film quand même. Hein.
Sur Raging Bull, esthétiquement, je trouve que c'est un film qui est vraiment exceptionnel. C'est vraiment, bon, on sait l'immense cinéaste qui est Martin Scorsese, mais en fait, il s'est posé des questions esthétiques et de mise en scène en fait, à chacun des combats qui structurent le film. Je crois qu'il y a 8 ou 9 combats dans Raging Bull, et en fait, chaque combat est mis en scène de manière différente pour s'approcher le plus possible esthétiquement de ce que le combat raconte. Et donc c'est un film qui est sublime en noir et blanc. Il y a une prestation de Robert De Niro qu'on raconte souvent. Il a pris je sais pas combien de kilos pour pouvoir faire le rôle, etc. Et il est complètement dans la méthode acteur studio. Donc il est totalement dans le personnage de Jake LaMotta qui a inspiré le film. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une inventivité visuelle qui est passionnante. Et il y a un autre grand film de boxe qui est considéré par Scorsese, d'ailleurs comme son préféré. C'est un film de Robert Wise qui est plus ancien. Il s'appelle Nous avons gagné ce soir, The Setup, le titre original. Et alors c'est aussi, ça rejoint un peu ce que je disais au début de l'émission. C'est un petit peu un film aussi sur le sport et l'arnaque, parce que c'est un boxeur un peu en fin de carrière qu'on a pris plein la gueule et qui veut faire un dernier combat. Il a promis à sa femme qui attend en fait dans l'hôtel en face de l'autre côté de la rue qui attend enfin qui aimerait qu'il raccroche les gants. Et il veut absolument faire ce combat. Et en fait, il apprend au milieu du combat qu'il est prévu qu'il se couche en fait. Alors que
Ouais.
contre toute attente, il a l'ascendant et il pense qu'il va pouvoir gagner, qu'il va pouvoir finir là-dessus. Il apprend que, en fait, son combat a été vendu par des mafieux et on lui demande de se coucher. Et en fait, il y a tout ce dilemme moral sur est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va prendre le risque de devoir faire face à des gros soucis en sortant, etc. Et c'est un film qui est quasiment en temps réel, avec aussi le point de vue de la femme qui attend et qui va faire un tour et qui ne veut pas assister au combat, etc. C'est un film qui est vraiment magnifique et extrêmement bien mis en scène et que j'invite à redécouvrir.
Et si on parle de. Juste pour revenir sur Raging Bull, c'est pas très étonnant, au-delà que la boxe soit un des sports les plus simples à filmer, parce qu'il n'y a que deux protagonistes dans un environnement, voilà, c'est un carré, on n'est pas sur un terrain de foot avec 22 joueurs. Mais c'est aussi le fait que les boxeurs sont des personnages. Dans l'histoire de la boxe, il y a vraiment des personnages qui sont invraisemblables. Peut-être plus encore que dans d'autres sports, et c'était le
Histoire
cas
frontale aussi, par rapport
évidemment de.
à un sport comme je sais pas, le
Ouais, mais
tennis ou
au-delà de
d'autres
la
sports
boxe
dans un
elle-même, le
terrain.
personnage de Jack LaMotta est vraiment. Enfin, j'ai presque envie de dire que Raging Bull pourrait se passer des scènes de boxe et resterait quand même un film passionnant.
Oui, bien sûr.
C'est ça la force de la boxe aussi.
Adrien, je ne sais pas si tu avais prévu cette thématique, mais il y a aussi des films qui ont été faits sur des sports qui n'existent pas, que tu as inventés.
Vas-y, ça nous intéresse.
Donc moi, j'avais choisi Rollerball, un film de 1975. Bon, moi, je reste très années 70, hein, vous connaissez ou pas d'ailleurs, mais enfin, je suis très, très 70s en musique et en cinéma. Film de Norman Jewison, avec James Caan dans le rôle principal. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un film de fiction, mais qui se passe en 2018. Donc maintenant, on pourra dire que la réalité n'a pas dépassé la fiction, même s'il y a des choses qui sont assez proches quand même dans nos sociétés actuelles par rapport à ce que ça veut dénoncer, ce film. Qui a donc pris comme thème un sport inventé, le rollerball, qui est une sorte de mélange entre du patinage autour d'un ring, et comme ça, d'un anneau, moto, parce qu'il y a dans une équipe, il y a des patineurs et des motards, et puis un peu foot américain, parce qu'il s'agit de lancer une balle en métal, métallique, dans un espèce de cercle aimanté, et tu marques un point si tu arrives à lancer la boule dans ce cercle. Donc ça, c'est la base. C'est un sport extrêmement violent, où tout est permis quasiment. Alors, il y a des pénalités, il y a des règles au début, en tout cas.
Ouais.
Ils s'en approchent de plus en plus au fur et à mesure. Mais ça reste très violent. Et en fait, c'est dans un monde où il n'y a plus de nations. Il y a des cartels, en fait, éco-planétaires. Et ce sont des départements qui ont remplacé les nations. C'est-à-dire, il y a l'alimentation, la communication, l'énergie, le logement, le luxe et les transports. Donc, tout le monde vit, alors ça, c'est la différence avec aujourd'hui, ce n'est pas le cas malheureusement, tout le monde vit dans une espèce de confort matériel et il n'y a plus trop de pauvreté. Mais en revanche, il y a toujours la violence inhérente à l'être humain et donc il faut l'exprimer d'une autre manière. Elle ne va pas s'exprimer socialement dans les combats sociaux puisque, a priori, il n'y en a plus. Mais comme l'individu est quand même une chape de plomb sur l'individu, ben, on dit qu'il faut quand même, un peu comme les jeux du cirque à l'époque, il faut qu'il y ait un truc pour que les gens puissent exprimer leur violence. Donc, on leur invente ce sport hyper violent, qui est le rollerball. Et mais la star, alors voilà, c'est que la star du jeu, qui est incarnée par James Caan, va comprendre un peu les rouages du truc, parce qu'on voudrait que... En fait, le gars qui chapeaute tout ça, le dictateur, on va dire, pour être un peu... pour réduire un peu les choses, il voudrait que ce soit le sport qui soit le roi et qu'il n'y ait pas d'individu qui dépasse. Parce qu'on est dans une société où l'individu ne dépasse plus. Et malheureusement, James Caan, petit à petit, lui, devient la légende de ce sport, à l'image d'un Maradona, ou chose comme ça. Et donc, il devient plus important que le sport. Et c'est ce qui est... Et donc, on veut qu'il prenne sa retraite, mais lui veut jouer le dernier match, la finale, etc. Il va finir par la jouer et elle a gagné dans un match où là, il n'y a plus du tout de règles. C'est l'ultra-violence, il y a des morts, il y a un combat sans fin. Même le public n'adhère plus parce que finalement, il n'y a plus de règles. Mais c'est lui qui va sortir vainqueur en épargnant d'ailleurs le dernier sur l'autre, dernier survivant de ce combat. Et il remporte finalement le combat ultime, non seulement en gagnant le match, mais surtout en devenant la légende de ce sport qu'est le rollerball et en montrant donc que l'individu finalement est plus fort que l'État, que l'individualisme reprend le pas par rapport à des dictatures qui veulent totalement l'étouffer. Donc c'est un film encore une fois de société, hein, comme ceux, les autres que j'ai choisis, avec des thèmes très sociétaux. De la science-fiction en plus un petit peu. Mais voilà, il y a un moment où il va quand même voir l'ordinateur où tout est numérisé, tout ce qui se passe est numérisé, etc. Et finalement, c'était avant Internet et tout. Et il y a des choses qui sont qui préfigurent un peu ce qui va se passer à l'avenir. Dans ce film, donc sport inventé, déjà intéressant, je trouve, le sport est, en lui-même il est intéressant, on aura presque envie de voir des matchs de rollerball, et puis inventé au service, encore une fois, d'une critique de la société au travers des dictatures et là, en l'occurrence, de l'individu bafoué, on va dire.
Il y a eu un remake, malheureusement, enfin... pas vraiment malheureusement, en fait c'est John McTiernan qui pour le coup est un immense réalisateur et surtout un très grand metteur en scène de l'action et de l'espace. Enfin, c'est quand on voit un film comme Die Hard, on voit que c'est à la poursuite d'Octobre Rouge, que c'est vraiment un génie de la mise en scène par la représentation des personnages dans l'espace. Et donc on se dit que pour un film de sport, un film comme Rollerball, il aurait été le cinéaste parfait. Malheureusement, la production du film a connu plein de problèmes et le résultat est très décevant. Mais il y a eu un remake au début des années 2000 avec Jean Reno d'ailleurs.
Ils ont repoussé la date, non ? Ils ont repoussé la date de l'action parce que du coup.
Ouais, je pense. Ouais. Pas tant que ça, non. En plus, je crois que ça se passe aussi au début des années 2000. Il y a plein de problèmes de cohérence, etc. Dans le film, mais voilà.
Il y avait un truc qui m'intéressait, David, peut-être pour conclure. Tu parlais tout à l'heure des meilleurs films qui étaient des films de boxe, si je ne m'abuse, et de baseball.
Oui.
Est-ce que tu aurais des exemples, un exemple ou deux de films de baseball pour que nos auditeurs pourraient aller voir ?
Alors, des films de baseball, il y en a vraiment beaucoup parce que ça reste le sport le plus, je dirais, le plus généralement populaire aux États-Unis, aussi à tous les niveaux, tous les âges, etc. C'est un sport qui est vraiment
très vrai aujourd'hui, quand même.
Enfin, en tout cas, qui a longtemps été. Était pratiqué par vraiment beaucoup d'Américains, en tout cas surtout enfants. Du coup, j'ai trois titres en tête. Il y en a un qui est vraiment très américain, c'est The Bad News Bears, qui est un film d'enfants sur une équipe de baseball d'enfants et qui est très marrant et qui est très, enfin, qui permet vraiment de voir justement le rôle du baseball dans la société américaine et notamment à l'école. Un autre film que j'adore, c'est un film de Penny Marshall qui s'appelle Une équipe hors du commun, qui est sur une équipe féminine de baseball pendant la guerre, en fait, pour remplacer les hommes qui sont du coup pas disponibles. La ligue de baseball avait imaginé de remplacer par des femmes, et donc c'est un film avec Gina Davis et Madonna et Tom Hanks dans le rôle du coach alcoolique, et c'est un film très très bien écrit avec des personnages, enfin chacun des personnages de l'équipe fonctionne très bien entre eux et c'est très intéressant. Et un film plus récent, c'est Le Stratège, Moneyball en anglais. Qui est un film sur l'approche ou l'incursion des statistiques dans le monde du sport, en particulier dans le baseball, et qui se heurte du coup aux recruteurs et aux coachs qui, eux, préfèrent justement le juger, le ressenti, etc. Et ce que je trouve magnifique dans ce film, c'est il y a une réplique qui revient, c'est comment ne pas être romantique à propos du baseball. Et en fait, il y a ce truc où en fait le côté très froid des statistiques va réussir à se renverser et devenir plus humain et plus justement romantique qu'autre chose. Et pour un sport qui est surtout en France où le baseball n'est pas forcément très connu, on a du mal à comprendre les règles et c'est quand même un sport qui est assez, assez complexe à suivre. Je trouve le film très réussi là-dessus et sur la capacité en fait à nous faire adhérer à un moment. Il y a un record qui doit être battu et toute la séquence qui accompagne ce record, moi, me bouleverse à chaque fois. Et je trouve que c'est un très, très bon film avec Brad Pitt dans le rôle principal, ouais, et Jonah Hill en acolyte assez efficace.
Je suis d'accord, c'est un super film. Adrien, je ne sais pas si on a encore 2 minutes.
Si, bien sûr.
On a été très long. Tu vas nous gronder.
Non, vas-y, parce que moi, je veux aussi évoquer un autre genre de film. Vas-y.
Très rapidement, parce qu'on est sur les sports US. Et un des films où j'ai ressenti qu'on se rapprochait le plus de l'intensité de ce que je peux connaître en tant que spectateur, c'est sur le football américain. C'est un film d'un réalisateur dont je ne suis pas un immense fan, mais voilà, c'est Any Given Sunday, l'enfer du dimanche, qui est sur le foot américain, sur la NFL. Et la façon dont Oliver Stone a utilisé l'espace du terrain et la façon dont il a filmé ce sport était vraiment très impressionnante, à tel point que la NFL l'a consulté après le tournage pour essayer de récupérer des idées sur la façon dont elle pouvait faire évoluer la manière de filmer ce sport. Donc c'est un des rôles de Pacino que je préfère, et pourtant il y en a beaucoup.
Ça me fait penser à un autre film, et je m'en voudrais de ne pas parler de sport mécanique parce qu'on n'a pas du tout évoqué le sujet, alors que c'est peut-être dans ces dernières années un des genres où il y a eu le plus de films qui sont sortis, avec là récemment encore le Mans 66, et même Rush il y a quelques années sur la bataille pour le titre entre Niki Lauda et James Hunt. Mais il y a un autre film qui me fait penser à ça, Laurent, et le côté très immersif peut-être que qu'il y a pu avoir, c'est le film Le Mans de Steve McQueen, qui est sorti en 1971. Et c'est un film, alors ça n'a pas été un énorme succès, hein, c'était un film, on ne parle pas forcément de chef-d'œuvre, mais il y a eu des scènes qui ont été tournées pendant une édition des 24 heures du Mans de 1970. Il y a même eu un des acteurs qui a dû être amputé. Et pour le coup, c'est un vrai film de sport mécanique, de course, où on est au cœur de la. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une énorme histoire, une petite histoire, une petite amourette qui se crée entre Steve McQueen et une femme qui a perdu son compagnon l'année d'avant dans un accident justement au Mans, mais on est vraiment dans la course pure, et ça a le mérite d'exister. Moi, c'est un des films qui m'a marqué, qui m'a fait aimer les sports mécaniques, donc je me disais que c'était intéressant aussi d'avoir ce genre de film représenté, parce que on en voit quand même régulièrement ces dernières années. Messieurs,
tout à fait.
Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, David. Je rappelle que tu es auteur de la carte de Movieland et de l'ouvrage Retour à Movieland, une carte routière qui recense pas moins de 1800 films. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas consulté, si vous avez encore envie de vous faire plaisir pendant ces fêtes de fin d'année. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs, à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qui c'est le plus fort.
Merci beaucoup. Merci. Allez. Au revoir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.